do it.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle galerie à Compiègne, galerie d'art. On en parle tout de suite après le générique, c'est la Galerie de l'Est. Ouverture ce vendredi 28 octobre à Compiègne. Non, c'est le samedi 28 octobre à Compiègne. Inauguration de la Galerie de l'Est. Elle ouvre ses portes donc en centre-ville de Compiègne. On aura ensemble pour parler pendant une heure de cette galerie. Je serai accompagné de deux demoiselles. Alors, ça va être assez compliqué aujourd'hui parce qu'on aura une traduction en russe. Parce que quand on parle de l'Est, évidemment, on ne parle pas de l'Est de la France, mais de l'Est de l'Europe. Bonjour. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Tu traduis du coup en anglais, en russe?
Oui, je vais traduire en russe et donc on va avoir des petites pauses de la langue russe. Pour ceux qui veulent l'apprendre, voilà, il y a une possibilité en plus.
Est-ce que tu peux te présenter la galerie, comment tu es arrivée à Compiègne?
Oui, donc déjà je m'appelle Daria Briand, je suis russe, nationalité russe et mon mari il est français, donc c'est pour ça que j'ai mon nom qui est plutôt...
Français,
ouais. Français, européen, oui, hein. Je crois que c'est breton même. Donc voilà, on est arrivé avec mon mari après avoir travaillé 6 ans à Moscou. Donc on est revenu en France et on a choisi Compiègne comme une ville qui est très sympa, qui n'est pas trop loin de Paris. Donc il y a toutes les accessibilités, mais en même temps, il y a une qualité de vie exceptionnel. Donc voilà, c'est comme ça comment on est arrivé là et c'est ici aussi l'idée d'ouvrir une galerie d'art émergée. Pourquoi? Donc déjà, je voulais démontrer un petit peu mon pays d'une façon différente qu'on le voit actuellement parce qu'avec toutes les situations politique dernières années, l'image de la Russie, elle n'est pas très, très encourageante. Donc, moi, je voulais le changer. Je voulais montrer une autre Russie. Je voulais montrer qu'on a aussi beaucoup de gens talentueux et que c'est ça qu'il faut regarder d'abord, hein, avant toutes les histoires politiciennes. Donc, je voulais montrer les personnes.
D'après toi, c'était quoi l'imagerie des Français par rapport à la Russie? Je pense au caviar, à la vodka, mais du coup...
Les ours aussi.
Les ours, ouais.
Oui. Les ours, balalaïka, matrioshka. Donc, vraiment des choses touristiques, si tu veux. Donc, on vient à la Place Rouge, on est mis dans un bus pour traverser la ville. On nous raconte des histoires un petit peu... vrai ou pas vrai, mais dans tous les cas, qui ne font pas la vraie image de la Russie. Hein. Donc moi, j'aimerais plutôt présenter la Russie qui est réelle, qui existe et qui se développe actuellement.
Là, c'était Russie côté ville ou côté... tu viens d'un village ou tu viens d'une ville, d'une grande ville?
Oui, ou c'est plutôt la ville. C'est plutôt la ville et la grande ville. Donc la Russie, c'est un pays très centré sur Moscou. Donc, toutes les forces artistiques, toutes les puissances, tout l'argent, tout se trouve à Moscou. Donc, après avoir vécu aussi 6 ans à Moscou, donc, on a eu toutes ces connaissances et qu'on va présenter finalement à Compiègne.
C'est un peu comme nous avec Paris, quoi.
Oui, mais un peu moins quand même, parce qu'à part Paris, vous avez quand même beaucoup d'autres villes assez intéressant, grand, où il y a du monde, on parle de ces villes, on les connaît. En Russie, tu connais quoi? Tu connais Moscou, Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si tu connais d'autres villes.
Non, de nom, non.
Donc voilà.
Vladivostok?
Oui, bien. Hein. Oui, Vladivostok, c'est vraiment c'est 7000 km de Moscou, si tu veux. C'est l'autre bout de planète. À part ça, il y a beaucoup d'autres villes, il y a beaucoup d'autres personnes et centres culturels. Donc voilà, il faut voir un petit peu ça. Hein.
C'est quoi aujourd'hui la mode artistique en Russie? Est-ce qu'il existe un courant artistique qui est vraiment développé ou qui se développe actuellement?
Waouh, peut-être c'est une question plutôt posée à Полина. Полина, у нас сейчас есть в России какое-то течение, которое преобладает артистическое?
Ну, привет. Так, ну, я думаю, что сейчас, когда мы стали более открыты миру, вот, художники, ну, и в местном контексте работают, и все-таки стараются как-то в таком мировом контексте тоже работать.
Ok, donc Полина dit qu'actuellement nous sommes quand même un pays assez ouvert, hein, je veux dire par rapport à l'Union soviétique à l'époque, et donc on a quand même les mouvements locaux, mais on est beaucoup plus ouvert aussi à tout ce qui est à l'international, et ici tu peux trouver plus ou moins les mêmes mouvements que partout.
Qu'en Europe ou qu'ailleurs.
Ouais, comme en Europe, comme aux États-Unis, etc.
Alors bah justement, puisque tu as introduit Polina,
oui.
Cette première exposition qui se déroule à partir du 28 octobre, du coup il y aura deux artistes il me semble pour cette exposition.
Oui, c'est bien ça, donc c'est Полина Егорушкина, elle va présenter ses aquarelles, elle travaille dans cette technique principalement, et le deuxième artiste c'est un photographe, et on va présenter ses œuvres. C'est pas vraiment des photos que vous avez l'intention de voir sur les expos à mon avis. Vous allez peut-être même vous tromper. Est-ce que ce sont les photos ou sont les œuvres abstraites, hein?
Est-ce que c'est des craquelures, c'est des photos de,
oui,
c'est des photos de sol, de murs.
Les pins de murs, les trottoirs, mais souvent sous un angle que tu ne vas pas les reconnaître, ou soit c'est très macro aussi qui te permet de voir des choses, les détails différemment. Mais franchement, il faut le voir.
Ouais, c'est assez drôle parce que au premier coup d'œil, on se rend pas compte de ce que c'est. Une fois qu'on recherche un petit peu dans l'image, là, on se rend compte que c'est bien un trottoir, que c'est un bout de mur avec un angle. C'est là le but de cette galerie, c'est de proposer uniquement de l'art contemporain.
Principalement, oui. Mais quand même, nous sommes assez jeunes, donc j'ai 31 ans. Et pour moi, c'est l'art qui me parle. Et donc moi, quand même, je vois présenter des choses qui sont en accord avec mon cœur, si vous voulez. Donc je ne pourrai pas dire « Waouh, c'est génial, venez voir l'art classique ». Parce que pour moi, c'est déjà passé, même si je peux apprécier des choses, mais ça ne me reflète pas. Parce que ce n'est pas notre actualité. L'art, ça doit répondre quand même aux questions d'actualité. C'est pour ça qu'on voudrait présenter quand même les artistes qui travaillent actuellement, maintenant, à ce moment-là, sur ce planète.
Là, tu as une formation en art? Tu as fait des études d'art?
Là, actuellement, oui. J'ai commencé les cours, tout ce qui est l'histoire d'art et théorie d'art. Mais d'origine, les autres formations que j'ai eues, apparemment, non, c'est pas lié avec l'art. C'était chef de projet, gestion des projets et ingénierie. Donc j'ai deux diplômes là, et là je vais le compléter avec mon diplôme de l'art.
Pour devenir ingénieur en art.
Oui, en art avec des projets et tout ça.
Bah, là, la création de la galerie, c'est un projet, puisque oui. Voilà, y a des ouvriers, il y a un travail qui a été fait, il y a des travaux.
C'est ça, le planning, budget, délai, tout ça. Ouais.
Cette galerie, le choix du centre-ville de Compiègne, il s'est fait comment? Alors c'est vrai que pour les auditeurs qui vont découvrir cette galerie, elle se trouve à l'ancienne librairie, et ensuite c'est devenu un vendeur de, je crois, de papeterie et de stylos.
Oui, c'est bien ça. Après, c'était vide pendant quelques temps. Et finalement, donc, on l'a retrouvée fin été. Donc elle était en location à nouveau. On était quand même charmés par ces façades, parce que ça, c'est un ancien bâtiment et avec des grandes vitrines. On a pensé que ça peut être bien de mettre des jolies images à l'intérieur de ces vitrines.
C'est 5 rue des Domeliers à Compiègne. C'était votre premier choix sur les recherches de Compiègne? Ou il y avait eu d'autres?
Non, on a regardé des autres locaux quand même. Mais ce qui est bien dans ce local, c'est qu'il est assez spacieux. Donc c'est 100 mètres carrés et on pourra présenter comme les tableaux donc, et les objets, etc. Donc, c'est un espace qui te laisse le choix des choses. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, on commence avec les peintures. Donc, j'ai déjà 6 expositions prévues et ce sont plutôt les peintres. Mais on ne sait pas, peut-être on va avoir aussi un artiste qui va présenter les sculptures ou installations. On aura bien aussi l'occasion de les présenter dans ce local.
Alors, c'est le nom de la galerie s'appelle la Galerie de l'Est. Ça oui. comprend quel pays, l'Est
Ah, pour moi, c'est large. Pour moi, c'est large.
Parce que pour nous, l'Est, ça va jusqu'au Japon, l'Asie, c'est à
oui,
l'Est de la France.
Pourquoi pas. Moi, j'aime bien aussi l'art japonais. Donc, je ne suis pas du tout contre de présenter un artiste si on va trouver un accord et si on va voir que ça correspond. Donc, la galerie correspond à l'artiste et l'artiste correspond à la galerie. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment des frontières très bien définies. Donc, si on voit vraiment un artiste... Qui veut exposer et on voit que ça peut marcher bien aussi dans nos murs. Donc, on sera tout à fait pour une collaboration.
Donc là, aujourd'hui, c'est les pays de l'ex-bloc soviétique, c'est ça ? Pour
oui.
commencer ?
Oui, pour commencer, parce que déjà, c'est le milieu que je connais bien et où je connais l'artiste. Donc, pour le moment, ce qui était prévu, ce sont les expositions sur les artistes russes. Déjà, donc première exposition, ce sont deux artistes qui viennent de Moscou, deux artistes moscovites. Après, ce qu'on a planifié, c'est aussi avoir les artistes. En mois de novembre, ça va être les artistes russes, arméniens. Voilà. Et l'année prochaine, on va aussi avoir les artistes qui vont venir d'Ouzbékistan et d'Abkhazie. Donc voilà. Et après, on a aussi les artistes qui ont commencé, par exemple... à l'époque, donc en Russie ou au Kazakhstan, et qui sont déjà déménagés en Europe et qui habitent actuellement en Europe. Mais pour nous, ce sont aussi nos amis à nous. Et on va travailler avec eux.
La Paulina est venue de Russie ce matin hier.
Non, l'histoire, elle est un petit peu plus longue que ça. Donc, elle était de passage à Londres et elle est venue ici avec Eurostar hier soir, je crois.
Là, les œuvres sont arrivées directement de Russie, ils sont passés par l'Angleterre, ils viennent d'où du coup
les œuvres qui vont être exposées ? C'est moi, je les ai amenées en mois d'août, voilà. Donc, elles sont arrivées en avion, Moscou-Paris, après toute l'histoire de douane et tout ça. Et finalement, les œuvres étaient ici avant Paulina, donc comme ça, on pouvait les préparer, mettre les bons encadrements et préparer pour l'exposition.
C'est compliqué de faire venir des œuvres de Russie, de l'art en général, c'est compliqué ?
C'est pas courant. Donc déjà, quand on est venu à la douane, elle était surprise parce qu'il ne savait pas trop comment agir, hein, parce qu'ils n'ont pas souvent les œuvres comme ça qui arrivent. Donc, c'était un découvert pour eux et pour nous aussi, en même temps. Donc, mais je pense que donc, la première fois, elle est déjà faite. Donc, après, ça va être plus simple déjà, parce qu'on connaît l'histoire.
C'est quoi ? C'est des formulaires à remplir ? C'est une assurance ?
Oui, c'est les déclarations. Ouais. Ce sont les taxes de donnement, je crois. Voilà. Et après, tu mets la liste, tu mets toutes les photos, parce que certaines œuvres, elles vont répartir après. En Russie, donc souvent ça se fait. Donc il y a deux façons de travailler, soit c'est dépôt-vente, soit c'est achat-vente. Donc et les œuvres qui sont en dépôt-vente, qui ne seront pas vendues, donc elles vont répartir en Russie.
Donc là il y a des œuvres qui vont rester, qui seront entre guillemets, qui resteront à Compiègne en attendant d'être vendues, donc ça, qui pourront sortir de l'exposition entre guillemets temporaire et peut-être avoir une exposition un peu plus permanente.
Oui, ouais. Donc il y a certaines œuvres qui sont exposées actuellement et qui vont rester après l'exposition aussi. Donc pour ceux qui voudront les retrouver plus tard, hein, ils auront une occasion.
On va écouter un extrait musical, on va se faire une petite pause musicale. On vous rappelle que si vous venez de reprendre ou vous venez de prendre cette émission en cours, on parle de la Galerie de l'Est qui ouvre ce samedi 28 octobre. Donc c'est 5 rue des Deux-Meuliers à Compiègne. Et du coup, bah, j'ai choisi de mettre un titre, je crois que c'est une artiste russe. Et je pense que tu dois connaître.
Тебя не осознанно.
Titre Zemfira à l'instant sur les ondes de Graphite. Donc c'est une artiste russe apparemment très connue. Il me semble qu'elle a fait plein d'albums. C'est bien ça?
Oui, elle travaille déjà depuis 15 ans, c'est sûr, hein, sur la scène russe. Et oui, elle a beaucoup des amateurs. Hein, donc nous, là, moi et Paulina aussi, nous sommes les amateurs de cette artiste-là.
C'est quoi ses influences du coup à cette artiste? C'est de quoi elle parle du coup dans ses chansons? Parce que j'ai vu les titres des chansons, c'est dans le métro, dimanche, maison, nous explosons, garçon. C'est quoi? C'est des titres qu'est-ce qu'elle dit?
Les réflexions sur la vie, sur les gens, sur le présent, donc surtout. Hein. C'est un petit peu, c'est juste. Exploration du monde et de nous dans ce monde.
Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à voir de la culture de l'Est plutôt sur les musiques comme ça? Parce que c'est très contemporain, ça pourrait très bien marcher en Europe. C'est quoi la frontière? Qu'est-ce qui manque?
Je ne peux pas te dire. C'est ça aussi la question que je me pose. Pourquoi on n'arrive pas à trouver beaucoup d'artistes peintres à représenter en Europe? C'est un petit peu mon souci parce que c'est ça que je veux aussi faire voir aux gens. Que c'est, oui, c'est contemporain. C'est tout à fait en concordance avec tout ce qui se passe ici. Ça peut marcher. Vous pouvez le plaire. C'est bien, c'est du bon qualité.
Et la France, dans tout ça, en Russie, elle est plutôt bien perçue. Et les artistes français, est-ce que
ouais.
Il y a des artistes qui percent en Russie?
Oui, beaucoup.
Je sais qu'il y a, comment elle s'appelle, une artiste française des années 80, Mireille Mathieu, qui marche très bien.
Oui, mais ça s'est déjà passé un petit peu, si tu veux. Là, c'est plutôt Zaz, Stromae, donc ça marche très bien. Donc, ils ont toutes les salles complètes et tout ça. Donc ça c'est très bien perçu en général, la culture française. On a quand même des liens historiques assez forts. Hein. Et donc, même si on voit qu'il y a des tensions au niveau politique, quand même au niveau personnel, ça restait toujours des bonnes relations. Si tu vas venir en Russie, tu seras vraiment très, très bien accueilli.
On parle un petit peu de Paulina?
Oui.
Alors, on fait une petite présentation de ses œuvres. On va commencer. Alors déjà, c'est très simple, c'est de l'aquarelle pour simplifier la chose. Mais il y a des choses assez particulières. C'est comment tu pourrais présenter son travail?
Pour moi, c'est vraiment pas les aquarelles que j'ai l'habitude d'avoir. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux t'imaginer quand on te dit aquarelle? Ce sont des choses subtiles, des choses avec des petits détails bien travaillés, etc. Donc pour les œuvres de Paulina, c'est pas ça. Donc elle utilise le matière d'aquarelle pour aussi sa fluidité, mais quand même le mouvement, elle est vraiment osée. Tu vois les couches de couleurs en partant, l'intensité, et donc on voit la force dans cette aquarelle-là. C'est pas l'aquarelle que tu vas voir ailleurs.
C'est pas l'aquarelle des impressionnistes avec posé en train de faire du paysage avec des couleurs pastels, quoi.
Non, c'est vraiment pour moi les couleurs qui imposent. Et ici on présente deux séries en fait, une série qui s'appelle Gratte-ciel, hein, donc qui va représenter les immeubles. Des plusieurs étages que tu peux trouver énormément à Moscou. Déjà, je ne sais pas franchement comment les...
Le décrire ?
Voilà, parce qu'il faut le voir. Hein. C'est ça peut-être la problématique un petit peu d'une émission radio sur l'exposition.
C'est toujours compliqué.
Sur l'exposition, oui. Mais...
Là, c'est des, du coup, c'est des aplats de couleurs avec des lignes et il y a certains paysages où on a l'impression d'avoir des paysages un peu désertiques, on a l'impression d'être dans des pays, enfin dans des territoires où des arbres ont été coupés ou sur la lune un petit peu.
Oui, c'est la deuxième série que tu vois, c'est la série plage. Donc si on voit la verticalité totale sur les œuvres de gratte-ciel, donc ici tu vois la ligne plutôt horizontale qui t'apaise un petit peu par rapport à tout ce qui est les verticalités des bâtiments de grandes villes. Et donc ici, tu peux trouver ton repos et se mettre un petit peu en réflexion sur ta place sur la planète.
Comment elle travaille ? Tu peux lui poser la question, comment elle travaille ? Comment elle commence ? Si elle commence par le fond, comment elle imagine en fait ses œuvres ?
Полина, вопрос тебе. Хорошо. Каким образом ты работаешь над своими работами? С чего ты начинаешь? Как ты кладешь краски?
Ну, всегда перед работой у меня есть идея работы в голове.
Déjà, je suis désolée, je vais faire des traductions par des petites phrases. C'est plus simple pour moi. Donc, déjà, au début, Полина, elle a toujours une idée. Qu'est-ce que ça doit être?
Но я никогда не делаю никакие наброски и карандашные. Ну, контуры там что-то не работает карандашом.
Mais elle travaille jamais avec un crayon. Donc elle fait pas ses essais avant de faire l'œuvre.
Ну, потому что это сковывает свободу. То есть идея есть, но всегда замысел может куда-то вильнуть, измениться. Вот карандашный набросок не даст такой свободы.
Et donc pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les essais? Parce que même si tu as une idée pendant le temps de travail, donc, la peinture, elle peut t'amener un petit peu vers un autre l'endroit, si tu veux. Donc, et si tu as déjà fait ton essai en crayon, donc ça va t'empêcher à changer ton idée ou à suivre la couleur, à suivre la peinture.
Ça donne une limite, quoi.
Voilà.
Я также могу сказать, что я работаю по мокрой бумаге, вертикально, на вертикальном мольберте. Вот, и работаю очень быстро. И никогда не вношу никаких поправок уже, когда, ну, после... До того, как высохнет лист, все должно быть готово, стремительно и свободно.
Окей, donc pour tout ce qui est le travail technique, donc Полина, elle travaille mouillé sur mouillé, donc elle travaille verticalement, donc son feu, elle est placé verticalement.
Хорошо. Я сказала, что не делаю поправок.
Et après, quand donc, c'est fait, il n'y a pas des changements à ajouter, donc elle ne fait pas des corrections sur des choses qui sont déjà faites. Donc, comme tu le vois, c'est vraiment l'empreinte de son travail de moment.
Elle met du temps avant de terminer et de se dire, ça y est, ce tableau-là, il est fini, quoi.
У тебя есть время, когда ты даешь себе подумать, если работа закончена или не закончена? Когда ты можешь сказать, что все, работа...
Ну, я как бы... Каждый художник интуитивно чувствует, что работа уже закончена, вот, но с моей спецификой, да, работы... Ну, есть такие моменты, ты как бы отвернулся, хоп, повернулся, но уже закончен. То есть нужно не перестараться, не переделать ее. То есть она заканчивается как бы сама. Внезапно может это быть.
Полина dit que chaque artiste, elle sent intuitivement quand est-ce que le travail est fini. Mais parfois, par exemple, elle peut juste se tourner, je ne sais pas, faire quelque chose d'autre. Et quand elle revient vers l'œuvre, elle comprend déjà qu'elle est finie. Il ne faut plus rien à ajouter.
Donc il n'y a pas de perfectionnisme. On ne se dit pas, il y a encore un petit truc à faire par ici.
У тебя не бывает такое, что тебе хочется, вот еще немножечко какой-то деталь доделать.
Конечно, бывает. Но... Очень часто это бывает уже лишним, поэтому я осторожно отношусь к таким порывам.
Полина dit que oui, souvent t'as des envies d'ajouter quelque chose ou corriger quelque chose, mais comme elle dit que souvent ça va être un trop, et donc elle essaie quand même de ne pas se tenter trop de le faire. Hein.
Sur le choix de l'orientation de l'œuvre, est-ce que c'est déjà arrivé que des acheteurs en fait changent l'orientation de l'œuvre? Elle l'a dessinée dans un sens et puis bah, eux, ils l'ont accrochée dans un autre à la maison. Puisque c'est vrai que là, c'est assez abstrait. Ouais. Les traits peuvent être modifiés dans le sens horizontal ou vertical. Est-ce que c'est déjà arrivé en disant bah, moi, en fait, je le préfère peut-être à l'envers?
Полин, у тебя уже было такое, что твои покупатели поворачивали твои работы в другую сторону и вешали в таком виде?
Конечно, однажды на выставке повесили работу кверх ногами. Вот, ну, окей.
Oui, Полина dit que ça arrive de temps en temps, mais même pendant une exposition, une fois, donc les organisateurs, ils ont mis son œuvre donc le sens dessus-dessous.
С абстрактными работами всегда так, мне кажется, можно.
Et dit qu'avec les œuvres abstraites, ça peut arriver assez souvent.
Ça donne une autre dimension à l'œuvre.
Voilà, c'est ça. Même si on a quand même une petite signature en bas, qui normalement nous aide à comprendre.
Là, il y a beaucoup dans son curriculum vitae, il y a curriculum vitae notamment d'exposition, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Chine. Et c'est quoi? C'est l'attrait, c'est l'aquarelle. Les pays asiatiques sont plus attirés par l'aquarelle qu'en Europe? Ou c'est juste des rencontres qui ont fait qu'elle a plus exposé en Chine?
Вопрос по поводу твоего опыта работы с Китаем. Да, mm-hmm. У тебя достаточно много было выставок, связанных с Китаем. Почему? Потому что там больше ценят акварель, больше у них мероприятий по этому поводу. Либо это какие-то твои знакомства, которые привели к тому, что ты там часто выставляешься.
Я думаю, что это оба как бы фактора повлияли, то и то. Вот. Но у них, да, очень большой интерес к акварели именно, и вообще там тушь, акварель, все эти текучие, быстрые, молниеносные техники, это все их конек.
Donc oui, en fait, il y a les deux. Donc déjà, les pays asiatiques sont très connus pour tout ce qui est le travail avec l'aquarelle et l'encre. Donc par exemple, la calligraphie aussi, c'est un art qui vient de l'Asie. Donc, et c'est pour ça que les plupart des événements sur l'aquarelle se passent là-bas.
А также всегда это очень интересные мероприятия, там насыщенные по культурной какой-то программе, которые очень интересно съездить именно туда. Мне нравится посещать и Китай, там в Китае, в Тайване я была.
Et donc il propose aussi souvent le planning des événements très complet, si tu veux. Il y a beaucoup de choses qui se présentent là-bas. Donc, il se prépare vraiment bien pour ces événements. Donc, c'est le cas de Shenzhen en Chine et Taïwan. Donc, les deux concours internationaux d'aquarelle que Pauline a participé, et donc où elle a gagné les prix d'excellence pour les deux fois.
Il y a également en 2013, il y a un prix dans la catégorie fiction pour l'illustration d'un livre sur 20 lieues sous les mers de Jules Verne. En plus, Jules Verne est né en Picardie, il est né à Amiens.
C'est vrai?
Ouais.
Ok. Jules Verne, оказывается, родился в Picardie, здесь.
А ты недалеко?
Мы здесь, вот как раз.
Il faut aller visiter sa maison. elle est dedans, l'œuvre elle est disponible. On peut la voir où, cette œuvre-là?
Полина, где мы можем посмотреть работы твои над книгой Жюля Верна?
Так, но с собой я ее не привезла, хотя нужно было на историческую родину привезти, но на сайте, конечно, у меня есть очень много работ.
Полина n'a pas pris le livre avec elle parce qu'il est vraiment bien épais, bien lourd. Hein. C'est une édition, comment dire?
Collector, ouais, voilà. Édition limitée.
Collector hein. Avec la couverture en cuir, donc c'est vraiment un travail de qualité, si tu veux. Hein. Mais quand même, tu peux trouver les illustrations de ce livre-là sur le site de Polina. Donc, c'est polinaigorushkina.com.
On mettra sur le Facebook, je pense que c'est plus simple.
Ouais. Ah, Facebook, bien sûr.
Oui, et sur Facebook de Polina, tu peux aussi trouver beaucoup des œuvres à elle, hein, y compris le Jules Verne.
Elle est née en 83, d'avoir grandi après le post-soviétique. Est-ce que ça a une influence sur le travail? Est-ce que... Parce que là, 83, je crois que la fin de l'URSS, c'était vers 91, fin 91. Ouais. Est-ce que du coup, ça influence, qu'elle a grandi dans le renouvellement, on va dire, du pays, ça influence son travail ou pas?
Полина, то, что ты родилась еще до развала СССР, влияет как-то на твое творчество?
Ой, ну я на самом деле очень счастлива, что я родилась как раз, ну, так много разных... То есть я и там как бы знаю жизнь, да, какая она была, какой она стала. Мне кажется, это очень сильно обогащает, вот, ну, мое поколение именно обогатило вот это совершенно разные вещи, да.
Donc, déjà, Pauline dit qu'elle est très heureuse qu'elle a pu vivre dans deux pays différents. Donc, comme ça, elle a l'héritage et l'expérience de vie en URSS et donc en Russie actuelle, et ce qui enrichit énormément sa génération.
Ну, потому что это был необъяснимый опыт, это невозможно пересказать или как-то понять, если ты так не жил в то время, это Дарья понимает. Вот. И только что, например, мы приехали с мужем из Лондона, и мы были там в Тейте, там сейчас огромная выставка наших довольно известных русских художников Мили и Ильи Кабаковых, как раз на эту тему, то есть он работал в Советском Союзе, и... Но там я, то есть, когда ты попадаешь туда, и ты жил в это время, у меня просто слезы были там на глазах, и на то, насколько это сильно чувствуешь.
Je vais essayer de traduire. Donc déjà, c'est difficile à faire comprendre aux autres qu'est-ce que c'est de vivre dans l'Union soviétique si tu n'as pas été dedans. Donc pour nous tous, ça laisse quand même une trace assez importante. Et Pauline, en fait, elle était avec son mari à Londres il y a quelques jours et elle a visité Tate Museum. Et là-bas, elle avait une exposition sur nos artistes. Il y a Emilia Kabakov. Je ne sais pas si tu le connais.
Non.
Tu vois? Mais quand même, ce sont les artistes très connus déjà. pour tout ce qui est l'art contemporain. Et donc, c'est là-bas, ils exposent vraiment leur expérience de vie en Union soviétique. Et donc, Pauline dit que ça l'impressionnait tellement qu'elle avait même des larmes sur les yeux.
Et многие художники сейчас моего поколения, ну, тоже молодые художники, жившие в то время, их детство прошло в то время, они очень много об этом говорят в своих работах. Именно советское детство, это такая вот в начале нашего разговора нас спросили, какая тема, да, сейчас в России такая популярная, там, или как-то вот такое течение. Это скорее вот эта тема советского детства очень прослеживается во многих работах и уже таким, ну, большой такой пласт работ об этом.
Et donc voilà aussi cette influence de l'enfance soviétique, tu peux le trouver dans beaucoup des œuvres comme Pauline donc et les autres artistes. C'est ça peut-être le trait que tu m'as demandé au début de l'émission qui peut se trouver dans les œuvres des artistes russes.
Là, quand on parle de gratte-ciel, quand on pense à la Russie, on pense plus à des choses comme la cathédrale, la basilique, le Bienheureux, je crois que c'est ça le nom de la basilique. La basilique avec le dôme...
Saint-Saveur, hein.
Sainte-Basile le Bienheureux, non? Comment elle s'appelle, la basilique principale?
Avec le dôme doré?
C'est ça.
Ouais. Donc Saint-Saveur.
C'est Saint-Saveur.
Je crois, ouais.
Du coup, c'est quoi le... Parce qu'on imagine plus cette architecture russe que les traits, les gratte-ciel. Il y a beaucoup de gratte-ciel aujourd'hui?
Mais il y a Moscow City. Donc, c'est un petit peu comme... c'est notre réponse à City de Londres, si tu veux.
D'accord, ah oui, il y a un côté genre, ouais, la City comme à la bourse, quoi.
Ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment très moderne. Et après, tout ce qui est les grands immeubles staliniennes...
Ouais, comme l'hôtel Leningrad ou ce genre de choses.
Voilà, donc c'est aussi très, très haute. Par contre, je ne suis pas sûre que Pauline s'est inspirée des immeubles staliniennes. Je vais le poser la question. Полина, по поводу твоих небоскребов, какие здания тебя вдохновили на написание этих работ?
Ну, эта серия, не то чтобы это конкретные здания с конкретным адресом, вот, это скорее, я не знаю, о чем вы говорили до этого, потому что французский я не знаю, вот, может быть, ты об этом уже говорила, что это... именно ритм города, то есть вертикальные все эти линии, это энергия города, и город всегда — это иерархия жесткая, и вообще довольно жесткая энергия.
Donc, ce que Pauline a dit, non, ce ne sont pas vraiment des adresses exactes qui sont représentées dans les œuvres, mais ce sont plutôt l'énergie de la ville, le rythme de ville qui est représenté dans ces œuvres-là, et avec les couleurs souvent très expressives, comme le rouge, par exemple, le flashy, etc. Ça te montre l'énergie, ça te montre les vitesses de la ville, ses ondes.
Là, les voyages, le fait de venir en France, est-ce que du coup Londres, est-ce que ça lui ouvre des nouvelles perspectives sur des nouvelles œuvres? Est-ce qu'elle va s'inspirer de ces voyages?
По поводу этой поездки, вдохновила ли она тебя, Лондон, потом Кампинь, вдохновила ли тебя на создание каких-то новых работ?
Ну, Лондон вообще очень вдохновляющий город, я там часто бываю, мне он безумно нравится. А Кампинь пока показался мне очень красивым, я переехала только вчера вечером. Обязательно вдохновит, я считаю.
Pour tout ce qui est Londres, donc Pauline y va assez souvent et donc elle trouve vraiment très inspirant pour tout ce qui est les mouvements artistiques là-bas. C'est vraiment impressionnant. C'est un des centres culturels les plus forts en Europe. Et pour Compiègne, Pauline, elle est venue hier aussi. Elle trouve la ville très, très jolie. Et donc, elle pense que ça va vraiment l'inspirer pour faire quelques œuvres.
Là, pour la Galerie de l'Est, est-ce qu'il y aura des résidences pour des artistes? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir peut-être plusieurs semaines ou presque un mois à Compiègne pour produire quelque chose?
Oui, on prévoit des résidences comme ça pour certains artistes qui veulent vraiment peindre sur place, qui veulent s'inspirer de la ville, de la région. Par contre, on n'a pas encore trouvé le moyen comment ça va être organisé, parce qu'il faut trouver un atelier où les peintres pourront travailler, donc où les loger, tout ça, ça, ce sont les questions à traiter encore.
Combien ça coûte une de ces œuvres, le tarif minimum, si on veut accueillir,
pour Pauline,
oui, si on veut accueillir une aquarelle? Donc, parce que le but d'une galerie, quand même, c'est de vendre.
Non, c'est pas le but.
C'est le but,
se faire connaître les artistes. Et après, pour continuer à exister, tu as besoin quand même de
vendre, bien sûr.
Et pour l'artiste aussi, pour pouvoir continuer à créer, il a besoin d'avoir à quoi...
De vivre.
Voilà. Donc, pour les œuvres de Pauline, on a mis 3 tarifs différents selon la taille et selon l'importance des œuvres. Souvent, ce qu'on voit dans les galeries, que le prix dépend que de la taille. Nous ne sommes pas vraiment d'accord avec ça, parce que ce n'est pas la quantité de papier ou quantité de peinture qui te donne telle ou telle impression.
Bien sûr.
Donc c'est plutôt vraiment l'importance de sujet, l'importance de l'œuvre réalisée qui va influencer le prix. Et donc ici, tu peux trouver les œuvres à partir de 1 200 € pour les petites aquarelles et jusqu'à 3 500.
Là, il y a déjà eu une exposition en France qui a été faite, ou c'est la première fois qu'elle expose en France?
En France, c'est la première fois.
C'est quoi, du coup, comment s'appellent les Russes français? Est-ce que tu as un réseau? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir, des Russes français qui vont venir voir l'exposition? Et comment ça se déroule, en fait? On sait, par exemple, quand tu pars dans un pays, tu vas en Angleterre, il y a des communautés françaises, tu vas à Montréal encore plus, aux États-Unis pareil. Est-ce que ça existe en France, des communautés russes? Et est-ce que vous faites... est-ce qu'il y a des échanges ou un Facebook privé ou je sais pas?
Oui, bien sûr qu'il existe les communautés russes en France, mais c'est souvent centré sur deux villes. Hein. C'est Paris et c'est Côte d'Azur, c'est Nice. Donc ici, tu peux trouver vraiment des associations fortes des Russes. Après, Compiègne, c'est pas trop loin quand même de Paris. On va essayer de faire venir des gens de Paris, les associations russes à Compiègne. Donc, l'air faire venir à Compiègne. Après, en Picardie, tu peux aussi trouver les associations russes. Donc, les gens, c'est pas à Compiègne, mais aux alentours, tu peux trouver les gens qui font apprendre la langue russe, la culture russe, etc. Donc, bien sûr, on est très ouvert pour tous les échanges.
On va refaire une petite coupure musicale avec Mieux Sec, avec le titre À Montparnasse. On se retrouve juste après ça. On vous rappelle que cette émission est en podcast sur le www.graphite.net, également sur Mixcloud et sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
Tu m'as planté là sur le quai sans même te retourner, sans même te demander si j'avais de quoi pour rentrer. Comme si rien n'avait compté, comme si t'avais tout oublié, comme si rien ne s'était passé, ma sale petite garce. Tu t'es coulé dans la foule comme si tu voulais t'y noyer, comme nous autrefois dans la houle quand le vent nous protégeait. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. T'avais tellement voulu y trouver ta place dans ces nuits d'euphorie et ce petit matin dégueulasse. Alors je t'ai dit adieu, même pas au revoir, de la honte, plein les yeux d'avoir perdu tout espoir. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine.
Retour pour parler de la Galerie de l'Est en compagnie de Daria et Paulina. On est toujours sur Graphite 94.9, www.graphite.net. Retrouvez-nous également maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Mixcloud où certaines émissions sont podcastées, donc si vous souhaitez les écouter. La Galerie de l'Est, ça s'ouvre le 28 octobre. C'est dans Compiègne, en plein centre-ville, rue des Daumeliers. C'est l'ancienne rue où il y avait, il y a très longtemps, la Poste. Je sais pas si
oui,
t'as entendu parler
de ça. Tout le monde nous en parlait de ça. Hein.
Parce que je crois qu'elle était pas très loin. Je crois qu'elle était juste en face, la Poste, ici.
Je
dis pas de bêtises.
Je crois que tous ces bâtiments, c'était l'ancienne Poste.
C'était l'ancienne Poste.
Voilà.
Donc cette exposition, ce vernissage, le samedi 28 octobre, Beauté fugitive. Comment on dit beauté fugitive en russe?
Ускользающая красота.
Très bien. Pourquoi avoir donné du coup ce nom-là à l'expo? C'est comment on choisit un nom d'exposition?
Je ne peux pas dire pour tout le monde comment on choisit les noms d'exposition, mais là, on essayait quand même de montrer ce fait que la beauté, elle est autour de nous. Et il faut juste le voir, en fait. Comme par exemple avec les œuvres de Constantine, Donc, ce sont des pans de murs, des trottoirs, des choses qu'on passe à côté chaque jour et on ne voit pas. On ne voit pas beauté à l'intérieur parce que ce sont les trottoirs et les dépenses du mur, quand même. Et donc, et juste quand on vient dans l'exposition, dans une galerie, on se dit, OK, ici, on va voir quelque chose de beau et on est prêt à voir des choses belles.
Oui, on peut sublimer, en fait, les choses un peu banales, quoi.
Oui, et donc, c'est ça le passage, si tu veux, tout est dans notre tête. Tout est dans notre tête. Et alors, c'est en ce moment-là que quelque chose se passe. On a un... comment dire, switch.
Ouais, un retournement.
Ouais, et que notre cerveau nous accepte de voir des choses belles dans les œuvres de banales, comme tu dis. Voilà. Et donc, pour nous, comme Constantine le dit souvent, ce sont les codes esthétiques, les chiffres qui nous empêchent de voir ça en quotidienne. Donc, on voulait ouvrir un petit peu ces portes et montrer que voilà, faites attention, vous passez à côté de beauté chaque jour.
On parle un peu des expos, des prochaines expos, puisque du coup là c'est le 28 octobre. C'est à quelle heure là, le vernissage?
C'est à 15h, on va ouvrir les portes et la partie officielle va commencer à 15h30. Donc franchement, je vous conseille de ne pas être trop en retard parce qu'on va voir aussi donc, toute la partie officielle avec des speeches. Et tout ça, mais après on va avoir une excursion sur l'exposition présentée par un critique d'art, Jean-Louis Poitevin, donc il va venir et ça va être intéressant.
En général, quand on parle vernissage, on parle à boire et à manger, ça sera des trucs typiquement russes, ça sera de la vodka?
Non.
Ou ça sera du champagne?
Non, quand même, on va pas faire boire les gens comme ça, hein. Quand même ici, on est plutôt pour apprécier l'art, hein. Mais bien sûr, on va avoir le champagne pour souhaiter bienvenue à la galerie dans la ville.
Sur la nourriture, c'est des choses russes ou c'est des petits fours classiques?
Des petits fours classiques.
Très ouais. Bien. C'est prévu d'avoir...
C'est pas par ça qu'on veut impressionner les gens. Non, mais c'est plutôt par les œuvres.
Sur l'inauguration, on aurait pu se dire, on fait venir des choses russes classiques.
Oui, on pouvait se dire, mais moi, je me suis dit quand même, je veux mettre l'accent sur les œuvres et sur l'artiste que sur la nourriture.
Ça crée des passerelles. Le 30 octobre, vernissage de Noël, on parle rapidement de ces artistes, des trois artistes qui y seront présents.
Oui.
Alors, c'est très compliqué quand on est français, les noms de famille, les prénoms. C'est pour ça que je les prononce pas, pour pas les écorcher. Je te laisse le...
Oui, donc pour moi de... décembre, ouais. On peut dire. Donc le 30 novembre, on va ouvrir une nouvelle exposition, mais ça va pas être une vraie exposition, ça va être plutôt un marché de Noël. Et donc ici, on va présenter trois artistes. C'est Ashot Khachkalan, elle représente l'Arménie. Donc elle travaille dans une technique plutôt figurative, avec beaucoup de couleurs, des sépia. C'est vraiment très très typique. Je ne sais pas si tu vois un petit peu les œuvres. Donc c'est bien coloré, ça, tu vois un petit peu les images des femmes, des hommes, donc dans...
On dirait un peu du Picasso, un petit peu sur les couleurs, sur certaines œuvres de Picasso, pour simplifier.
Oui, tu peux dire comme ça, mais encore avec les œuvres qui sont récentes.
Ouais, ouais.
Oui. C'est difficile à dire récent maintenant pour Picasso, mais oui, on peut dire comme ça.
À la fin de sa vie, on va dire, à la fin de...
Ouais. Et donc, oui, ça va être une petite exposition de ses œuvres que vous allez pouvoir acheter tout de suite sur place sans attendre la fin d'exposition, parce que c'est ça aussi souvent le cas. Après, on va voir un artiste, Karahan Serferbekov. Ça, ce sont les œuvres plus classiques, vraiment. On va voir un petit peu des graphiques « new ». Voilà, les thèmes de féminité, il est bien, bien développé dans ses œuvres. Et Danila Menshikov, elle travaille dans une technique un petit peu abstrait. Et il travaille aussi beaucoup avec l'encre d'imprimerie, qui donne les images vraiment fantastiques. Donc, il prend vraiment des rouleaux, je sais, qui sont utilisés dans les imprimeries. Et il fait avec eux des choses, des traits, après le scratch et tout ça. Et donc, ça fait vraiment les images impressionnantes.
Donc, c'est des grands volumes ou c'est des grands formats ou pas?
c'est les formats assez grands. Je ne me souviens pas les plus grands. C'est à peu près un mètre sur un mètre à peu près.
Là, la taille, ça conditionne un peu les œuvres que tu vas recevoir chez toi, puisque pour le transport, c'est plutôt compliqué de recevoir des grandes œuvres.
Non, pas beaucoup non. plus compliqué que les petites œuvres, en fait. Parce que qu'est-ce que je fais pour les transporter, c'est je les enlève de châssis et donc je les mets en rouleau. Et donc comme ça, ça change. Oui, je peux avoir le rouleau à 60 cm de largeur ou 1 mètre ou 1 mètre 20.
Ouais, voilà. Ils n'arrivent pas avec les cadres, donc c'est beaucoup plus
voilà,
simple.
Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus simple. C'est juste après, il faut que je les remets sur le châssis ici, hein, en France.
C'est un autre travail du coup. Donc voilà. Les châssis qu'on peut retrouver en Russie, par exemple, ne seront pas les mêmes, ce n'est pas forcément les mêmes cadres qu'on va trouver en France.
Non, peut-être non. pas les mêmes, mais ce n'est pas vraiment très important.
Le mois de janvier, portrait du lieu, le 11 janvier.
Oui, juste pour commencer l'année 2018, on va avoir une très belle exposition avec deux artistes, c'est Evgenia Jager et Rivka Bilareva. Donc, ce sont les artistes qui travaillent aussi dans le figuratif, mais c'est complètement différent par rapport à ce qu'on peut voir pour Achot, où Achot, c'est vraiment des trucs imaginaires. Hein, ouais. Là, tu vas voir plutôt le réalisme. Donc, le réalisme des petites villes. Donc, par exemple, ici, tu peux voir beaucoup les œuvres de son exposition Territoire provincial. Donc, si tu veux, un loup, un laissé et pas un chien, donc des choses comme ça, tu sais, un petit peu, donc les endroits perdus où toutes les choses sont réelles ou pas réelles.
Ouais, c'est très dans le rêve et dans l'onirisme un petit peu.
Oui, hein. Mais c'est ça. Donc, d'un côté, tu vas te dire, non, c'est un rêve, mais de l'autre côté, tu vas comprendre que non, c'est la réalité pour certains gens.
Donc là,
pour les villages perdus et tout ça. Hein.
Là, c'est de la sérigraphie et de l'acrylique, en fait. C'est de la sérigraphie et retravaillé avec de l'acrylique par-dessus.
Oui, voilà. Plus les dessins.
On continue ensuite avec le Est et Ouest, le 15 janvier.
Le Est et Ouest, on va essayer d'amener beaucoup des artistes donc, de Russie, de Mongolie aussi. Ils vont représenter un petit peu cette liaison entre l'Est et l'Ouest. Donc, c'est ici, peut-être, tu pourras attendre à voir des petits fours à la russe et de la vodka et tout ça. Donc, franchement, on va essayer de mettre une image un petit peu plus élaborée sur tout ce qui est l'Est.
Donc là, c'est plus sur les choses un peu plus classiques qu'on imagine, nous, Européens.
Non, ce n'est pas forcément classique, mais ça va être juste un regard vraiment avec les spécificités locales.
Le mois de mars avec le vernissage de Pâques ?
Oui, donc mois de mars, c'est Diana Vaube qui va venir sur Compiègne. C'est cette artiste-là que je vais chercher à trouver un atelier sur Compiègne et elle va peindre sur place peut-être les paysages de Compiègne parce qu'elle fait vraiment des très, très belles paysages en technique abstraite. En plus, on va réfléchir pour faire aussi les installations de bois. Donc, on va essayer de les fabriquer aussi sur place. Elle travaille sur ses propres alphabets à elle. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce que ça pourra donner ici.
Là, dans le petit dossier de presse, il y a une de ses œuvres qui s'appelle La route de la maison. On a l'impression d'être en Picardie avec les champs, une route Picarde en fait. Hein.
C'est pas la Picardie, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est à Prézy. Donc, c'est le pays où elle vient. Mais oui, on peut très bien imaginer qu'elle pourra faire une série des œuvres avec des couleurs encore plus rapprochantes de Picardie. Et c'est ça le but aussi.
Le mois d'avril avec le théorème de la couleur.
Oui, Alexis Lantsov, c'est un artiste qui travaille aussi avec beaucoup de couleurs. C'est un petit peu décoratif, ses œuvres. Et ça ressemble vraiment pas mal au Miro. Je ne sais pas si tu connais le peintre, donc tu peux t'imaginer un petit peu ce style. Donc c'est abstrait et avec quelques traits figuratifs quand même. Donc ça va être très intéressant aussi à voir.
C'est combien de temps de travail pour créer une galerie, pour la réfléchir, pour qu'elle prenne vie, contacter les artistes ? C'est combien de temps en termes de préparation, gestion de projet.
Oui, mais moi, ça m'a pris donc à partir de fin l'année dernière, donc décembre 2016, jusqu'à voilà, l'ouverture fin octobre.
On imagine le monde de l'art comme un petit monde où tout le monde se connaît. C'est le cas ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France ? Les galeristes se connaissent, se rencontrent. Il y a des choses auxquelles il faut aller voir. Alors là, il y avait l'exposition d'art contemporain le week-end dernier à Paris. Est-ce que c'est un petit peu des temps forts auxquels on est obligé d'aller, un peu comme nous sur certains festivals ?
Oui, c'est un petit peu comme ça. Donc il y a toujours les grands classiques. Donc, comme aussi les foires comme FIAC à Paris et voilà, les galeries aussi avec une très bonne réputation. Et voilà. Donc, bien sûr que tu as besoin de se mettre en connaissance avec les gens qui fréquentent ces endroits-là. Et donc, tu rentres de petit à petit dans ce monde-là aussi. Mais il y a quand même, je vois aussi beaucoup de nouvelles galeries qui s'ouvrent, qui osent et qui commencent son chemin sans vraiment avoir beaucoup de support derrière, ce qui est peut-être le cas aussi pour nous.
Il existe beaucoup de galeries qui proposent des artistes russes à Paris ou ailleurs, peut-être à Nice ou sur la Côte d'Azur ?
Oui, il existe quelques-unes. Je ne peux pas dire qu'il y a énormément. C'est sûr qu'en Picardie, il n'y a pas beaucoup, donc on sera...
C'est la seule.
Oui, c'est la seule. Après, il y avait sans doute les expositions des artistes russes, mais une galerie qui sera vraiment centrée sur l'art venant de l'Est, non, il n'y a pas.
Le vernissage, c'est samedi à partir de 15h. 15h30, c'est...
C'est la partie officielle où il faut être, absolument.
Et ensuite, le soir, ça ouvre jusqu'à quelle heure si on veut venir se balader et visiter les œuvres ?
Oui, donc pour le soirée de vernissage, ça va être ouvert jusqu'à 20h. Hein. Sinon, les horaires standards, c'est mardi, vendredi de 14h à 19h et samedi toute la journée sans interruption de 10h à 19h.
Là, les artistes Paulina et Constantin seront présents ce samedi-là. Ils seront présents aussi à d'autres temps où on pourra les rencontrer, discuter avec eux, en faisant que tu fasses la traduction.
Déjà, ce n'est pas toujours facile de faire venir des artistes de si loin. Donc, je suis très contente que Pauline ait pu venir et participer dans ce vernissage. Comme ça, les gens de Compiègne... pourront aussi venir, poser des questions, discuter sur place. À mon avis, c'est très important de connaître l'artiste.
Ouais, de mettre un visage sur les œuvres en général, ça.
Oui, et aussi de discuter un petit peu qu'est-ce qui était derrière les œuvres. Pour moi, c'est vraiment une discussion indispensable pour tout ce qui aime l'art. Voilà, après, les œuvres, elles seront présentes jusqu'au 25 novembre. L'exposition sera ouverte pour 4 semaines. Et après, si quelqu'un veut poser une question à Constantin, pas de problème, on va trouver un moyen de lui communiquer.
Donc il ne sera pas là ce week-end en fait ?
Non, il ne sera pas ce week-end.
Il y a des artistes qui sont sûrs d'être là dans les prochaines expositions qui vont arriver ou...
Oui, oui. Dans tous les cas, pour chaque exposition, on va essayer de faire venir au moins un artiste. Si on va avoir une possibilité, on va faire venir 2 ou 3, ça dépend aussi de l'exposition. Donc, par exemple, pour l'exposition de janvier, donc Evgenia Jäger, elle sera là. Pour l'exposition de février, on va voir même 3 artistes sur place. Donc, ça va être Larissa Blochina, Umid Bek et Natalia Gergadze. Elles seront là. Et pour les expositions solo de Diana Vaub et Alexis Alantsev, elles seront là aussi.
Toutes les informations, on les retrouve via Facebook, on partagera ça sur le Facebook de la radio. Vous pourrez retrouver les liens de Paulina, les liens de Constantin et évidemment les liens de la Galerie de l'Est qui ouvre donc ce samedi à partir de 15h. 15h30, soyez présents avec les officiels. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Paulina, bon séjour en Picardie et bon séjour en France. Je vais pouvoir terminer avec le seul mot que je sais dire en russe, Spasiba bolshoï.
Спасибо. Правильно.
Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Restez branchés sur le 94.9, retrouvez l'émission en podcast. Et bon après-midi, bonne journée si vous travaillez. À bientôt. Do it.